Bonjour à tous. Science à l'antenne, émission de médiation, association des dealers de science.
Mais enfin, Solène, à qui tu parles ?
Mais ça c'est ! Oh, je dormais si bien ! Charlie, je te l'ai déjà dit, c'est Capitaine Solène Moineau, enfin, respecte ta hiérarchie !
Moi c'est Charlotte Sol... Enfin, Capitaine Moineau. Je vous réveille car on arrive au port de Tortuga Island.
Quoi ? Une nouvelle terre à conquérir ? Vite ! Ma longue vue !
Mais enfin, nul besoin de longue vue à cette distance. Il faut surtout arrêter le bateau avant qu'on s'écrase dans le port.
Oui, oui, je savais tout ça, jeune matelot. C'était un test, évidemment. Jetons l'ancre.
Nom et raison de la visite à Tortuga Island.
Nous sommes de fiers marchands venus de terres lointaines. Nous avons brasé 1000 tempêtes.
On est les joyeuses crevettes et on vient livrer notre cargaison de la semaine à Monsieur Mylig.
Ah, c'est vous les crustacés. Il est au bout à gauche.
Oh, juste au moment où j'allais parler du Kraken.
Capitaine Moineau, on est une modeste compagnie de pêche enfin. Qu'importe. Ah, j'aperçois Mylig.
Oh yeah, jeune matelot.
Comment ça, matelot ? Je suis le capitaine Moineau.
Hé, je vois que vous n'êtes pas d'ici. Laissez-moi vous raconter les actualités. Les JO 2024 se dérouleront en majeure partie dans notre chère capitale, Paris. Mais certaines épreuves seront à l'autre bout du globe, comme le lagon de Tahiti, en Polynésie française. Endroit très prisé des surfeurs pour sa vague mythique de Teupoupo. Et qui accueillera les épreuves de surf. Afin de respecter les normes réglementaires, le comité d'organisation de Paris a décidé de remettre l'ancienne tour des juges en bois à neuf. Cette décision est un fort sujet de controverse et de tension sur l'île entre les organisateurs et les populations locales. En effet, après des essais de la nouvelle structure, des dégâts conséquents ont été vus sur les coraux à proximité. Cela a suffi à attiser les défenseurs locaux de l'environnement. Les travaux ont donc été suspendus par le gouvernement polynésien et une pétition a été lancée avec pas moins de 250 000 signataires. Une action qui a poussé le comité Paris 2024 à revoir le projet initial afin de valoriser la protection du corail en vue des épreuves prochaines. Un projet supervisé par des personnalités du surf local qui souhaitent mettre en avant les méthodes de bouturage du corail dans la politique globale de gestion durable. Les travaux, bien que ralentis, devraient permettre à la tour de devenir fonctionnelle le 13 mai prochain. Histoire politique sur la gestion ambiguë qu'a menée l'URSS vis-à-vis de ses ressources en eau. Les années 1920 avaient été plutôt propices à l'émergence d'un discours de protection de la nature. Mais lorsque Staline a commencé à lancer ses grands projets industriels et à faire taire tout ce qui pouvait ressembler de près ou de loin à une opinion divergente, ça a été rapidement étouffé. Le dégel politique d'ouverture lancé en 1956 par Nikita Khrouchtchev a permis l'émergence d'un discours politique local, avant tout axé sur la question de la pollution des cours d'eau, avec le prisme de l'empoisonnement du prolétariat. Malheureusement, malgré le soutien d'intellectuels parfois hauts et haute placés du régime, l'intérêt industriel d'État a continué à primer. Si les gigantesques centrales hydroélectriques et les grands barrages leur étaient associés, voulus par Staline, ont cessé d'être construites et des législations écologistes mises en place, ces dernières ont pour l'essentiel été ignorées. De 1966 à 1986, malgré une communication frôlant un greenwashing anachronique, la politique industrielle ultra-productive de l'URSS a continué à faire des ravages jusqu'à mener notamment à l'assèchement quasi total de la mer d'Aral.
Merci beaucoup madame, on doit vraiment y aller. Oh, Mylig, on vient te livrer nos crevettes. Oh, bah, il a l'air en pleine discussion, on va peut-être pas le déranger.
Bonjour Thomas Extier, vous êtes enseignant-chercheur contractuel en paléoclimatologie à l'Université de Bordeaux, effectuant vos recherches dans l'équipe paléoclimat de l'UMR Époque, ou environnement et paléo-environnement océanique et continentaux. Vous travaillez à la fois sur les modélisations du climat et des données de terrain, en vous appuyant particulièrement sur la végétation et le cycle de l'eau. Une question d'abord, pourquoi s'intéresser au climat passé ? N'avons-nous pas déjà fort à faire avec le climat présent ?
Oui, bonjour, merci pour cette question et merci pour l'invitation à cette interview aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'avec les climats actuels présents et le changement climatique qu'on observe, il y a effectivement beaucoup à faire. Et si on regarde justement ce changement actuel, on se rend compte que les activités anthropiques viennent se superposer aux variations naturelles que l'on a sur Terre. Et c'est en ça où s'intéresser au climat passé devient intéressant, puisqu'on peut regarder le climat que l'on avait à plusieurs milliers ou millions d'années dans le passé, avec seulement les activités, les cycles naturels que l'on avait sur Terre. Donc on peut s'intéresser au changement du climat que l'on avait avec seulement des changements de l'insolation, donc de la quantité d'énergie reçue par la Terre du Soleil, et aussi en fonction des cycles naturels, des gaz à effet de serre, comme par exemple le CO2 ou le méthane. Et donc, en s'intéressant à ces périodes de temps passé, on peut identifier des périodes un petit peu particulières où le climat était soit plus chaud, soit plus froid qu'aujourd'hui. Donc, on avait par exemple, assez proche de nous, on va dire, il y a 21 000 ans, une période beaucoup plus froide, donc qui s'appelle le dernier maximum glaciaire, où on avait un climat, une température moyenne de la Terre qui était à peu près 4,5 degrés plus froid qu'aujourd'hui. Donc, qui dit climat plus froid dit calottes de glace, Groenland, alors pas trop Antarctique, surtout Groenland beaucoup plus développé, un niveau marin plus bas. Donc, il y a plein de conséquences associées à ce climat plus froid, des changements sur la cryosphère, sur les calottes de glace, mais aussi des changements sur la circulation marine, sur la végétation. Et à l'inverse, on a eu des périodes de temps beaucoup plus chaudes, comme par exemple une période qui s'appelle l'Émien ou un maximum thermique du Paléocène-Éocène il y a 56 millions d'années, donc encore beaucoup plus vieux, où le climat était cette fois plus chaud. Pendant le maximum thermique du Paléocène-Éocène, c'était à peu près 5-8 degrés plus chaud qu'aujourd'hui. Donc en fait, en étudiant le climat passé, on cherche un petit peu des analogues à ce qu'il pourrait avoir dans les climats futurs pour essayer de comprendre quel changement climatique on a eu, quelle rétroaction ça a eu sur les autres composantes du système climatique pour mieux prédire le climat qu'on observe aujourd'hui et le climat futur.
Alors, est-ce qu'il y a des personnes, des périodes que vous avez particulièrement étudiées ?
Oui. Alors, j'ai eu l'occasion de travailler beaucoup sur les derniers 800 000 ans. Alors, pourquoi les derniers 800 000 ans ? Parce qu'en fait, c'est une période de temps qui est couverte par les carottes de glace. Et j'ai eu l'occasion de travailler un petit peu sur les carottes de glace lors de ma thèse il y a quelques années. Et pendant ces 800 000 ans, on observe plein de choses. On voit qu'on a des périodes plus froides qu'on va appeler des périodes glaciaires, des périodes plus chaudes qu'on appelle des interglaciaires. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est la période qu'on a un petit peu entre les deux. Donc en fait, le passage d'une période froide glaciaire à une période chaude interglaciaire, qu'on appelle une déglaciation ou une terminaison. Et j'ai eu l'occasion de travailler beaucoup sur ces terminaisons et de voir en fait que pendant ces terminaisons, on a par exemple les concentrations de gaz à effet de serre qui vont fortement augmenter et que ces augmentations de gaz à effet de serre ont un impact important sur le climat. Et en prenant un exemple peut-être plus spécifique, une déterminaison donc de passage de période glaciaire à interglaciaire qui s'est déroulée il y a à peu près 430 000 ans. Alors, ce n'est pas tout jeune, hein, c'est il y a un petit moment. Pendant cette terminaison-là en particulier, on remarque que la productivité de la biosphère terrestre était beaucoup plus importante. Et on essaye d'expliquer ça avec des changements dans les paramètres orbitaux de la Terre qui auraient pu faire qu'on aurait eu des saisons estivales beaucoup plus longues qui fait que la végétation aurait pu être beaucoup plus productive pendant une période plus longue. Et donc on essaye comme ça de chercher des périodes de temps où on a des changements climatiques un petit peu particuliers.
Merci. Alors le thème de cette émission en particulier, c'est océan. Et vous travaillez notamment sur des données prises sur le terrain. Alors, dans quelle mesure utilisez-vous des données issues de l'océan, l'océan glacial arctique, par exemple ? Parce que j'imagine que la calotte polaire y est une aubaine pour étudier de l'eau passée.
Ouais. Alors, en tant que modélisateur, je ne vais pas réaliser moi-même et aller moi-même sur le terrain pour récupérer les données. Ça, c'est plutôt des personnes qui travaillent, donc plutôt des paléoclimatologues qui sont du côté expérimental, mais j'utilise beaucoup les données qui sont produites par ces personnes-là. Donc, comme vous le mentionnez sur l'océan, le travail des paléoclimatologues, c'est de partir en fait en mission océanographique en mer sur des gros bateaux et de faire des forages au fond des océans et donc de prélever ce qu'on appelle des carottes de sédiments au fond des océans. Et dans ces archives, on va retrouver plein de choses qui sont intéressante pour reconstituer les climats passés. Donc, dans ces carottes de sédiments, on va pouvoir étudier par exemple les grains de pollen, ce qui va nous renseigner sur quel type de végétation on avait. Est-ce qu'on avait plutôt une végétation de type tempéré, tropical, boréal ? on va pouvoir trouver des organismes marins qui sont les foraminifères. Donc, c'est des petits organismes planctoniques qui ressemblent un petit peu à du pop-corn. Et on peut étudier ces organismes d'un point de vue purement biologique, écologique, c'est-à-dire reconnaître les espèces. Et déjà, ça nous donne une indication sur le type de climat qu'il y avait à l'époque où vivaient ces organismes marins.
Et à l'endroit où ils se trouvaient.
Et on peut, en plus de ça, faire des mesures de géochimie isotopique, donc c'est-à-dire mesurer des rapports isotopiques de l'oxygène ou du carbone. Donc dans les plus connus qu'on utilise sur les foraminifères, on a par exemple le delta O18. Donc c'est un rapport isotopique de l'oxygène 18 sur l'oxygène 16 qu'on va venir mesurer en fait dans la coquille de ces petits foraminifères. Et ce delta O18 va nous renseigner sur plusieurs choses. Il peut nous renseigner sur le volume de la glace. Est-ce qu'à l'époque où s'est formée cette petite coquille du foraminifère, le volume de glace était très important, donc ça sous-entend un climat froid. Est-ce qu'à l'inverse, le volume de glace était moins important, donc un climat plus chaud. On peut aussi avoir, avec ce delta O18, en utilisant des espèces de foraminifères qui vivent plutôt proches de la surface, une indication sur la température de l'eau. Donc, est-ce qu'on avait une eau chaude, une eau froide ? On peut utiliser dans ces carottes sédimentaires d'autres proxys, comme par exemple des biomarqueurs. Donc, ça va être plutôt des composés organiques fossiles qui sont produits par du plancton, par exemple, par des diatomées. Donc, ils produisent des longues chaînes de carbone, par exemple. Et ces lipides sont très bien conservés dans les sédiments. Une fois que l'organisme meurt, ces lipides restent longtemps, ce qui permet, lorsqu'on travaille sur des carottes sédimentaires qui ont plusieurs millions d'années, d'être capable de retrouver ces molécules-là, puisqu'elles ont été conservées, et de les analyser pour reconstituer, encore une fois, la température de l'eau. Ou par exemple, puisque vous avez parlé de l'océan Arctique, reconstituer quel était le couvert saisonnier de la banquise. Donc être capable de dire si on avait une banquise qui était très étendue ou moins étendue. Et après, si on se rapproche un peu plus des calottes de glace, c'est aussi intéressant de pouvoir réaliser la même chose que ce qu'on fait dans l'océan, les mêmes types de carottes, mais par exemple au niveau du Groenland ou de l'Antarctique. Donc cette fois, on va parler de carottes de glace. Et on va pouvoir, dans ces carottes de glace, étudier... Alors, on retrouve des parties de l'atmosphère qui ont été piégées, donc on retrouve des gaz à effet de serre qu'on peut étudier, ce qui est très intéressant pour avoir les variations passées de CO2 ou de méthane. Mais si on s'intéresse à l'eau et au cycle hydrologique, on peut aussi mesurer, encore une fois, des rapports isotopiques, ce qui va nous permettre de reconstituer quelles étaient les températures au niveau du Groenland ou de l'Antarctique, voire même jusqu'à aller à dire quelle était l'élévation de la calotte de glace.
Donc finalement, en apprendre beaucoup. Et alors, est-ce qu'il y a des lieux en particulier que vous avez privilégiés pour les prélèvements de carottes glaciaires et de carottes sédimentaires que vous avez employées dans vos travaux ?
Alors, pour les carottes glaciaires, il y a plusieurs sites de forage au niveau du Groenland. Alors, peut-être un des plus connus, c'est le site de North Grip. Donc, on a le plus long forage de glace au niveau du Groenland qui permet de remonter jusqu'à à peu près 130 000 ans. Et côté Antarctique, c'est pareil, on a une multitude de... Alors, multitude, il n'y en a pas tant que ça, mais on a en tout cas plusieurs... site de forage avec le plus connu qui s'appelle le site d'Epica Domsay où on a 3 km de carottes de glace, ce qui permet de remonter jusqu'à 800 000 ans dans le passé et donc d'avoir une idée des variations du climat jusqu'à 800 000 ans dans le passé. Et pour l'océan, on a une couverture qui est assez grande. Hein. On peut avoir des carottes sédimentaires dans l'océan Indien, Pacifique, Atlantique, Austral, on en a un petit peu de partout.
Alors, au-delà de ces carottes sédimentaires et glaciaires, est-ce que vous avez d'autres données de terrain que vous êtes amené à employer ?
Oui, alors on peut utiliser par exemple les coraux qu'on retrouve également dans l'océan et pratiquer le même type de mesures géochimiques que l'on fait sur les carottes sédimentaires et sur les foraminifères qu'on retrouve, donc, c'est-à-dire du delta O18 pour avoir une information sur la température. On pourrait faire également du delta C13, donc cette fois c'est des isotopes du carbone qui vont plutôt rendre compte des changements qu'on aurait eu dans le cycle du carbone, donc un lien direct avec le CO2. Donc on a ces coraux-là. Alors ça dépend aussi beaucoup des périodes de temps sur lesquelles on travaille, puisque vous voyez, toutes les archives ne permettent pas de couvrir toutes les périodes de temps. Donc les carottes sédimentaires couvrent de très longues périodes de temps, ça peut remonter jusqu'à plusieurs millions d'années. Les carottes de glace, on s'arrête pour l'instant jusqu'à 800 000 ans. Alors pour l'instant, parce qu'il y a des travaux en cours pour remonter un petit peu plus loin et trouver de la glace jusqu'à 1,5 million d'années, donc ce qui serait vraiment très intéressant.
Presque le double.
Ouais. Et les coraux, on va couvrir une période de temps qui est un peu plus réduite, hein, seulement quelques milliers d'années, voire dizaines de milliers d'années au maximum. Donc ça dépend aussi de la période de temps à laquelle on s'intéresse. Donc on pourrait utiliser les coraux. Et un autre exemple, ce serait peut-être les spéléothèmes. Donc en fait, c'est plus simplement ce qu'on appelle nous les stalagmites. Donc en fait, quand vous allez dans des grottes, vous avez des concrétions calcaires qui se forment, les stalagmites. Et ces stalagmites-là, on peut, de la même façon qu'une carotte de sédiment, l'étudier et étudier sa composition isotopique, donc sa chimie en fait, et avoir des informations. Donc pour ces spéléothèmes-là, ce sera plutôt sur le cycle hydrologique, savoir si on avait plus ou moins de précipitations. Et on peut aussi faire le lien assez facilement avec l'activité de la mousson, puisque ces spéléothèmes, on les retrouve beaucoup en Asie, en Amérique du Sud. Et donc, ça a un lien direct avec l'activité de la mousson, savoir si on avait une mousson très importante, beaucoup de précipitations ou inversement.
Alors, concentrons-nous maintenant un peu plus vers vos résultats, si vous le voyez bien. Alors, quelles ont été les principales variations climatiques que vous avez rencontrées au cours de vos recherches? Et quelles ont été leurs conséquences?
Oui, alors j'ai surtout travaillé sur les terminaisons glaciaires, donc ces périodes où on passe d'une période froide à chaude et où le CO2 augmente fortement. Et donc, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure sur la terminaison 5 qu'on avait vers 430 000 ans, on s'est rendu compte qu'on avait une productivité qui était vraiment boostée à ce moment-là. Et en utilisant en fait une association de données différentes, des données à la fois de carottes de glace, des données de carottes de sédiments, on a pu se rendre compte que ce pic de productivité qu'on avait pendant cette terminaison semble être lié à une végétation terrestre qui serait plus développée à ce moment-là, alors qu'il pourrait être plus développé par exemple au niveau équatorial, donc avec une végétation tropicale qui produirait beaucoup plus, ou alors au niveau des hautes latitudes, si vous avez moins de neige, de couvert de glace, vous laissez la place à la végétation pour se développer, ce qui pourrait participer au fait d'avoir une végétation plus productive. Et puis un peu plus récemment, j'ai travaillé sur une période encore... méconnu dans le sens où on ne sait pas trop ce qui se passe et quelles sont les hypothèses pour expliquer cette période. Donc on est à peu près entre 1,2 million d'années et 800 000 ans. Donc c'est une période qui s'appelle la transition du Pléistocène moyen. Et on remarque qu'à cette période, les cycles glaciaires-interglaciaires changent de rythme. C'est-à-dire qu'avant, on alternait entre une période froide et chaude à peu près tous les 41 000 ans. Et après cette transition du Pléistocène moyen, les cycles glaciaires-interglaciaires passent plutôt à une cyclicité de 100 000 ans. Et il y a plein d'hypothèses à l'heure actuelle pour justement comprendre ce qui se passe et pourquoi on a ce changement. Et donc récemment, j'ai pu travailler en collaboration avec des chercheurs du laboratoire EPOC sur la fin de cette période. Donc en combinant des jeux de données de carottes sédimentaires, donc des pollens principalement, et de la modélisation du climat, donc avec un modèle de climat couplé océan, atmosphère, végétation, et on a pu se rendre compte que on avait un changement particulier avec une période qui était censée être glaciaire et en fait qui était beaucoup plus chaude que prévu, et que pendant cette période qui était beaucoup plus chaude, on avait une humidité vers l'atmosphère qui était plus importante. et qui participaient en fait à alimenter les calottes de glace et à faire qu'elles soient un petit peu plus grosses.
Alors quel rôle les océans ont-ils joué lors de ces changements ? Est-ce qu'ils étaient plutôt des régulateurs ou est-ce qu'ils ont plutôt participé à des emballements ?
Alors pendant ces périodes, alors, en fait ça dépend des périodes de temps sur lesquelles on travaille, mais pour reprendre l'exemple justement d'avant, bah, l'océan a participé plutôt à, on va dire, un emballement, pour reprendre ce terme-là, puisque le fait d'avoir une période plus chaude, un océan plus chaud, on a eu en fait une production d'humidité et de précipitations plus importante, ce qui a fait que les océans ont transféré plus d'humidité vers les hautes latitudes et donc ont participé à alimenter les calottes de glace. Mais si on se place à l'heure actuelle, l'océan va plutôt avoir un rôle de régulation sur le climat parce qu'il va piéger le CO2 qui est émis par nos activités humaines, par exemple, et donc va participer en quelque sorte à réguler le climat. Donc en fait, il peut avoir un double rôle au cours du temps.
Alors, qu'est-ce que les variations que vous avez étudiées peuvent nous apprendre sur le changement climatique actuel ? Et par exemple, à des choses auxquelles nous ne pensons pas habituellement, mais auxquelles nous devrions pourtant nous préparer ?
Alors oui, si on regarde les prévisions du GIEC, on voit que alors, ces prévisions sont faites à partir de modèles de climat, forcément, puisqu'on n'a pas de données pour le futur. Et donc les prévisions nous montrent que d'ici la fin du siècle, en fonction des scénarios dans lesquels on se place, on peut avoir 3, 4, 5 degrés de plus par rapport à l'actuel. Et si on regarde ce qui s'est passé dans le passé, hein, d'où l'intérêt de comprendre et d'étudier ces climats passés, on peut voir que pendant l'ère géologique qui s'appelle le Pléistocène, donc c'est à peu près les 2,6 millions d'années, eh ben on voit que pendant cette période-là, le climat a varié naturellement de l'ordre de 4 à 6 degrés au maximum. Donc on a eu des périodes où il faisait 4 à 6 degrés plus chaud qu'aujourd'hui. Et ça, ça peut nous renseigner justement sur ce qui nous attend un petit peu. Et ce que l'on voit quand on étudie ces périodes, c'est que les changements se font de manière assez progressive et prennent du temps. C'est-à-dire que le CO2 augmente naturellement sur plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'années. Et en conséquence, la température va augmenter, mais aussi sur plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'années. C'est des processus qui prennent du temps. Et là, en fait, ce que l'on voit, d'après les prévisions faites par le GIEC, c'est que les changements climatiques actuels et futurs sont en fait 100 fois plus rapides que ce qui s'est passé dans le passé. Donc la température augmente beaucoup plus vite. Donc c'est en ça que les climats passés en fait, peuvent nous aider à comprendre un petit peu ce qui passe et ce qui nous attend pour les climats futurs.
Alors une dernière question, dans quelle mesure travaillez-vous avec des collègues de sciences humaines et sociales, des archéologues par exemple, pour étudier l'impact des variations climatiques passées sur les populations humaines ?
Oui, alors c'est vrai qu'on est amené à travailler et à interagir assez régulièrement avec que ce soit des paléontologues ou des anthropologues. Puis on a la chance d'avoir sur le campus de l'Université de Bordeaux plusieurs laboratoires qui travaillent sur ces thématiques, que ce soit ici à l'Université de Montaigne ou le laboratoire de recherche PACEA, qui est également sur le campus de l'Université de Bordeaux. Donc on interagit beaucoup avec ces paléontologues, climatologues, puisque le climat va directement impacter les populations d'hominidés qu'on pouvait avoir dans le passé. Donc on pourrait prendre l'exemple de l'espèce Homo qui vivait à un moment donné en Afrique et qui a dû sortir d'Afrique pour aller en Asie et en Europe. Donc on essaye de comprendre en combinant des données, des restes fossiles qu'on retrouve, éventuellement des modèles de dispersion humaine et le climat, à quelle période il serait sorti, quel était le moment le plus propice, par où il serait sorti d'Afrique. Où on peut aussi, comme ça a été le cas il y a quelques années, on a travaillé avec des collègues d'époque et de PACEA sur un enregistrement marin au sud-est de l'Afrique et sur des données de restes fossiles d'une espèce qui s'appelle Paranthropus robustus qui se trouve au sud-est de l'Afrique. Et on a réussi à mettre en évidence que cette espèce Paranthropus robustus Donc les données, les restes fossiles nous montraient qu'elles avaient complètement disparu il y a 1 million d'années. Mais en fait, on ne connaissait pas la cause de cette disparition. Et en utilisant les données de carottes sédimentaires, donc en reconstituant le climat, on a pu voir que, à partir de 1 million d'années, on a un climat qui devient beaucoup plus chaud et sec dans cette région. Et un climat plus chaud et sec va conduire à changer le type de végétation qu'on retrouve dans cette zone. Et donc de changer en fait les ressources alimentaires qu'utilisait cette espèce pour se nourrir. Donc elle utilisait préférentiellement des espèces, on va dire, d'arbres. Et le changement de ce climat a fait qu'on a eu plutôt des types de prairies ouvertes. Et donc cette espèce a en premier lieu s'est déplacée pour trouver une adaptation et avoir une alimentation. Mais comme les changements climatiques ont perduré, cette espèce s'est finalement éteinte. Donc on fait régulièrement le lien avec les paléontologues et anthropologues pour essayer de trouver une histoire à la disparition de certaines espèces d'hominidés.
Eh bien, espérons donc qu'on ne connaîtra pas le même destin que Paléoanthropus. Merci beaucoup, Thomas Extier, d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Et maintenant, nous vous proposons une courte pause musicale avec La Mer de Charles Trenet.
La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on va danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, des grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie.
Eh bien, ce fut fort intéressant. Mieux vaut ne pas le déranger. On n'a qu'à poser la caisse dans un coin. Il finira bien par la trouver.
Eh bien, voilà qui est fait. Reprenons la route. On a encore du travail.
En avant, Moussaillon. Allons, l'océan n'attend pas.
Solène, t'as entendu ce bruit? Oh mon dieu, je crois qu'il y a un gros poisson là-dessous.
Capitaine Moineau, pas Solène, enfin, pourquoi personne ne me respecte? Oui, oui, tu as dû regarder ça sur nos radars d'un écrit. Par Poséidon, oui, ça m'en a tout l'air. On dirait... un kraken!
Non, ça ressemble plutôt à un sous-marin. Et il fonce droit sur nous.
Ah, un peu d'air frais. Oh, mais tiens, c'est quoi ce vieux rafio de pêcheur? Oh, Julien, viens voir, on a de la visite.
Vieux rafio?
Vous êtes perdu? Vous avez la chance d'être tombé sur le plus grand aventurier au monde, le célèbre Victor Croft. Ah, et mon assistante Julien.
On connaît pas, mais bonjour.
Ah, vraiment?
Alors, l'assistante qui accompagne Monsieur Croft, est chercheuse en biologie marine. Enchantée.
Mais vous faites quoi sous l'eau? Vous chassez le kraken?
Ah non, les baleines.
Vous chassez les baleines?
Non, on les suit pour étudier leur migration et pour que Julia fasse ses recherches là sur un truc un peu compliqué. Ça fait plusieurs semaines qu'on parcourt l'océan. On a commencé notre grande aventure depuis le pôle sud.
Mais c'est super loin.
Et oui, plusieurs milliers de kilomètres. Et même que certaines baleines parcourent entre 10 000 et 25 000 kilomètres par saison.
Ça a pas l'air amusant. Vous ne faites que les suivre. Vous avez déjà mangé des baleines?
Mais plus personne ne mange de baleines. Et pourquoi parcourt-elle une telle distance?
À cette période de l'année, elle migre vers des eaux plus clémentes pour se reproduire, donner naissance à des baleineaux ou encore pour se nourrir.
Eh ben, vous en savez des choses.
Je sais. T'as vu, Julia? J'ai tout bien retenu de tes explications.
Bravo, te voilà un peu moins bête, c'était pas gagné. Bon, moi je descends, j'ai du travail à faire.
Oh oui, vous devriez voir ce qu'elle fait. Elle travaille sur le champ des baleines. Même si je vous avoue que j'appelle pas ça du champ, moi.
Alors, c'est gentil, mais un capitaine n'abandonne jamais son bateau.
Moi je veux bien venir. On reste en contact radio, oh mon capitaine. Waouh, ce sous-marin est impressionnant.
Oui, je l'ai pas payé au prix fort pour rien. C'est un bijou de technologie. Julia t'en dira tant.
En effet, ce navire est équipé avec tous les instruments nécessaires à mes recherches sur ce qu'on appelle le champ des baleines. Ces sons émis par les cétacés pour communiquer entre eux. En fait, la majorité des espèces marines sont capables d'émettre des sons, que ce soit des poissons, des crevettes ou même des coraux. Mais seuls les mysticètes s'octroient la grâce de chanter.
Les mystiques, quoi?
Ce sont les baleines bleues ou les baleines à bosse.
Ah, et ça ressemble à quoi ces bruits?
C'est plusieurs vocalisations répétées en boucle. Je peux d'ailleurs vous faire écouter le chant d'une baleine que j'étudie souvent. Laissez-moi mettre la main sur ça. Ah, c'est bon, je l'ai.
C'est vrai que c'est étrange comme son. Le capitaine a raison, on dirait pas un chant. Mais comment les baleines peuvent-elles produire un son pareil?
Les baleines possèdent en fait un vibreur dans le larynx qui est comparable à nos cordes vocales humaines. Par contre, les baleines produisent des sons sans expirer, contrairement à nous.
Et les baleines, si elles chantent, c'est par plaisir, comme nous?
La fonction du chant des baleines n'est pas clairement établie, même si trois hypothèses se dessinent. D'abord, les cétacés en général, que ce soit les baleines, dauphins ou les orques, utilisent ces sons comme un moyen de se repérer sous l'eau. En effet, la lumière se fait rare dans les grandes profondeurs et cet outil est indispensable pour se situer dans leur environnement. Sinon, on pense que les baleines mâles utilisent leur chant pour séduire les femelles. Dans ce cas, pousser la chansonnette permet d'assurer la parade nuptiale et ainsi la reproduction. Finalement, on pense que le chant sert également à définir un territoire occupé par une ou plusieurs baleines en alertant les autres individus de la présence d'une baleine mâle dans la zone.
Et est-ce qu'une baleine sait chanter de façon innée?
Les baleines pouvant vivre une centaine d'années, elles ont le temps d'apprendre à chanter à leurs congénères. On appelle cela la transmission verticale, c'est-à-dire d'adulte à enfant, et horizontale, c'est-à-dire d'adulte à adulte. Ainsi, les chants des baleines sont des marqueurs culturels.
D'ailleurs, Julia m'a appris une anecdote marrante. Les baleines ont des accents.
C'est vrai, si une baleine de l'ouest rencontre une baleine de l'est, on a observé que leurs vocalisations se ressemblaient beaucoup, mais changeaient généralement, jusqu'à former des accents.
Incroyable! C'est bien plus intéressant que de travailler avec mon capitaine.
Quoi? Comment ça? Bon, qu'est-ce que t'attends pour remonter, toi?
Ah, ce capitaine, j'avais oublié que vous étiez en ligne.
Bon courage sur votre rafio, ne coulez pas.
À bientôt!
Ni, bon courage. Comment peut-on couler avec mes expertises affinées des océans? La maîtrise des embruns?
Tu te rappelles quand même que tu as eu de justesse ton permis bateau en Bretagne après avoir échoué 5 fois?
Ouais, bah, c'est pas de ma faute si les côtes sont si belles à observer. Voilà! Y a qu'à voir la côte de granit rose, c'est si magnifique. Oh, les Loires me montrent rien que d'y penser.
Oh, regarde Solène, une baleine. Oh, mais y a un bateau qui la suit.
Moussaillon, on nous attaque. Préparez-vous au combat, sortez les canons, souquez les artémuses.
C'est un bateau de touristes, Solène, on ne va pas les attaquer tout de même. Tiens, y a un drôle de petit bateau qui le suit. Regarde, il vient à notre rencontre.
Vous avez des têtes à venir pour poster des photos de rêve sur Instagram.
Non, on est vraiment arrivés là par hasard.
Ah, d'accord. Autant pour moi, je pensais que vous étiez des touristes non renseignés encore.
Non, on est des voyageurs de l'océan, nous. D'ailleurs, c'est quoi ces clapotis au milieu de l'eau?
Ah, justement, laissez-moi vous expliquer. Enchantée d'ailleurs, Pauline, scientifique dans une association de protection de dauphins. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis les années 1980, il y a un essor d'activités lucratives autour des animaux marins. Ces activités sont le plus souvent du whale-watching et de la nage avec les animaux marins.
Du whale quoi ?
Le whale-watching est une activité touristique permettant d'observer les mammifères marins dans leur environnement naturel. Ici, les clapotis, ou plutôt les splatchs, que vous voyez, c'est plus de 300 personnes dans le lagon qui ne savent pas forcément se servir de leurs palmes.
Attendez, ne me dites pas qu'en dessous, il y a...
Si, là, il doit y avoir un groupe de 40 dauphins qui essayent de fuir loin de ce raffut.
J'ai du mal à y croire. Les dauphins vont beaucoup plus rapidement que les humains. Ils peuvent partir quand ils veulent.
Ah, je comprends que vous soyez dubitatif. On va monter sur le pont du bateau pour prendre de la hauteur dans vos croyances et votre point de vue. Voyez-vous les petits bateaux autour des personnes ? Leur but est de rabattre le groupe de dauphins lorsqu'ils essayent de s'enfuir. Ils leur coupent clairement la route pour que les dauphins repartent vers le groupe d'humains. Le seul moyen est de rester en groupe pour mieux se protéger, surtout quand ils ont des petits avec eux. Ils ne peuvent pas partir rapidement car ils laisseraient seuls la mère et le delphino qui apprend à nager et à respirer. Les touristes dans l'eau ne voient pas forcément les techniques de rabattage frénétiques, bien trop émerveillés de voir les dauphins qui passent et repassent.
C'est hallucinant à voir d'en haut. On voit clairement que les dauphins repartent dans l'autre sens du bruit du moteur. Ah c'est bon, là les zodiacs remettent les gens à bord.
Ah, je suis désolée de vous dire que c'est que le début de 2 heures de bruit et d'humains non-stop pour ces dauphins. Vous allez voir maintenant les fameuses mises à l'eau sur les dauphins.
Ouah, mais le bateau passe sur les dauphins ?
Exactement, c'est ce que nous observons la plupart du temps. Dans ce lagon, nous avons, dirais-je, de la chance car ils vont à une vitesse raisonnable. Mais ils sont beaucoup trop proches des dauphins. Là, ils sont à même pas 1 mètre des dauphins pour que les touristes puissent se mettre à l'eau.
C'est moi ou un touriste vient de faire une bombe sur un des dauphins pour aller dans l'eau ?
Oui, les bateaux qui vendent ces activités ne font pas forcément l'effort d'expliquer comment faire une bonne mise à l'eau sans faire de bruit, donc sans splash. Ici, en mer Rouge, l'activité de nager avec les dauphins est très lucrative. Leur but est de rentabiliser, même si en effet, c'est pour que le touriste voit que 2 secondes sous l'eau le dauphin.
Il doit y avoir des impacts sur ces dauphins.
En effet, ici, ce lagon est ce qu'on appelle une aire de repos, une zone cruciale pour leur survie. Ils reviennent du large où ils ont passé la nuit à chasser et reviennent dans cette zone pour pouvoir se reposer. Or, avec cette activité humaine, ils fuient plus qu'ils ne se reposent. Cela peut engendrer un dérangement important des animaux durant leur activité vitale, que ce soit l'alimentation, la socialisation, le repos ou la reproduction, entraînant des conséquences sur leur santé et celle des populations. Sans parler des problèmes de communication à cause des bruits des moteurs et des coupures sur les dauphins à cause des hélices des bateaux. Sur d'autres sites, ils attirent les requins-baleines par exemple avec de la nourriture. Par habitude, les requins-baleines ne se nourrissent plus d'eux-mêmes et n'ont plus aucun comportement sauvage et sont livrés à l'activité touristique.
Et il n'y a rien qui puisse être fait ?
Si, d'où notre présence sur le site. Nous faisons des actions de sensibilisation et que la pratique soit plus réglementée pour protéger les dauphins. Et il n'y a pas que nous. Pour vous renseigner avant de partir en voyage, vous pouvez appeler l'association Dolphiness qui vous donnera le nom de professionnels respectueux dans leur pratique. Cette association sensibilise et propose aussi de la nage respectueuse, c'est-à-dire qu'elle ne va pas mettre à l'eau s'il y a trop de personnes ou que les dauphins se reposent. Il y a une phase d'observation et cela sera toujours les dauphins qui viendront vous voir et non l'inverse grâce à des techniques étudiées par sa présidente éthologue. Plus près de chez nous, chez nos côtes méditerranéennes, l'association Miracetti a mis en place un label High Quality Whale Watching pour que vous puissiez aller observer avec des professionnels qui ont de bonnes pratiques respectueuses des cétacés et de leur environnement, car en Méditerranée, c'est interdit de nager avec les cétacés. Ces initiatives montrent qu'il est possible de concilier activité touristique et préservation de la faune marine à condition d'adopter une approche raisonnée et respectueuse de l'environnement.
Eh bien, merci pour ce riche exposé. Bon, c'est pas le tout, mais nous avons des océans à conquérir. Ah là là, décidément, je fatigue de plus en plus. J'avais plus d'énergie à l'époque où je chassais le calamar géant à main nue.
Tiens, j'ai une idée. Je vais vous mettre une petite musique pour vous détendre, capitaine. On va écouter Waves, le remix de Robin Schulz.
Face above the water, my feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around.
slowly drifting away. Wave after wave, wave after wave. Slowly drifting, and it feels like I'm drowning. Pulling against the stream, pulling against the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon at time. You are not around, slowly drifting away. Wave after wave, wave after wave, slowly drifting, drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream. Come in, get started.
Enfin, Moussaillon, regardez Charlotte, nous venons d'arriver sur une île encore inexplorée. Je ne la vois sur aucune carte.
Oh, y a plein de coquillages, t'as vu ? Des cocotiers, du sable fin, c'est paradisiaque.
Mais tends l'oreille, on dirait de doux sons de baleines. Je les reconnais maintenant. À moins que...
Eh oh ! Non mais là, c'est plus possible en fait. Arrête de te prendre pour le capitaine Haddock, je suis pas Tintin.
Mille millions de mille sabords, matelot Gabriel. Nous sommes bienvenus ici pour trouver un trésor.
Un trésor ?
Un trésor ?
Un trésor ? Mais quel trésor ? Il n'y a que des animaux et des arbres ici. Il est où ton trésor, hein ?
Mais enfin, le vrai trésor de notre terre, c'est bien la biodiversité que l'on trouve sur cette île, unique en son genre.
Unique ? Mais pourquoi unique ?
Mais enfin, matelot Gabriel, les espèces animales ou bien végétales présentes sur les îles, on les trouve nulle part ailleurs. C'est pour ça qu'on les appelle endémiques. Les îles sont des territoires isolés, propices pour la prolifération de cette biodiversité. Un aspect majeur qui a été un choix d'étude pour les travaux de Darwin, par exemple.
Oui, certes, tu as raison. Mais tu oublies de préciser que toutes ces espèces, bien que singulières, sont néanmoins très fragilisées par certains facteurs. Nous, par exemple. L'urbanisation détruit les espaces naturels, mais aussi la chasse, qui mène à la disparition d'espèces, comme le dodo à Maurice.
Tonnerre de Bresse ! Et tu ne parles même pas des espèces exotiques envahissantes ? Elles sont plus que néfastes pour les espèces endémiques, en prenant plus de place sur l'habitat naturel. On a le frelon asiatique en Europe, ou bien l'iguane commun en Martinique. Ces espèces peuvent également être porteuses de maladies, et être la source d'épidémies majeures dans certains secteurs, comme le chikungunya porté par le moustique gris.
Pour le coup, je te rejoins. Les espèces exotiques envahissantes sont vraiment...
Excusez-nous. Tonnerre de Brest ! Des intrus ! Matelot Gabriel, armez les canons !
Alors, c'est-à-dire qu'on vient d'arriver sur l'île et qu'on veut juste vous demander sur quoi on a débarqué ?
Oui, oui, vous inquiétez pas. Après, c'est pas comme si on avait des canons, hein. C'est juste le matelot Laure.
Je suis capitaine, nom d'une pipe !
C'est marrant, elle me rappelle quelqu'un, celle-là.
Voilà, donc ce personnage-là, avec qui je suis coincée depuis maintenant un mois, qui se prend pour le capitaine Haddock.
Tu m'en diras tant.
Pour répondre à votre question, nous vous demandons d'avoir un peu d'imagination et de bien croire que nous sommes sur une île imaginaire qui rassemble les caractéristiques de toutes les îles connues.
Ça a beau être mon imagination, j'ai quand même le mal de mer.
Attendez, il y a plusieurs types d'îles ?
Bah de toute évidence ! Enfin, jeune moussaillon, vous ne pensez tout de même pas que toutes les îles se forment de la même manière ?
Alors, c'est pas moussaillon pour moi déjà, nom d'ambulo ?
J'avoue que j'en ai aucune idée. Je suis simplement vendeuse de crevettes.
Voyons, voyons, nous allons vous expliquer. Matelot, expliquez-leur.
Bah déjà, l'exemple le plus récent est l'apparition d'une nouvelle île dans l'archipel de Zubaïr, à partir d'une éruption très importante qui a créé un cône de lave remontant jusqu'à la surface. Voilà !
Développe un peu plus, voyons !
Il existe aussi des territoires qui étaient auparavant rattachés à un continent.
Madagascar à l'Afrique ou la Corse à l'Europe.
Et qui se sont séparés suite au déchirement des plaques tectoniques. Après, il y a aussi l'accumulation de sédiments et de coraux, je crois.
Oui, oui, des sédiments et des coraux. Tu apprends vite.
Et cette accumulation, elle peut contribuer à l'émergence de nouvelles terres, comme les Maldives par exemple. Et après, il y a l'exemple de la Barbade dans les Caraïbes, je sais plus.
Ça, c'est quand les îles émergent là où...
Là où les plaques tectoniques s'entrechoquent. Et ça provoque des plis sur la croûte terrestre qui peuvent aller jusqu'à percer l'océan.
C'est ça. Mais ne t'avise plus jamais de me couper la parole, malotru, ou je te coupe la langue. Et je te la donne à manger au rat noir d'outre-mer.
Eh hey, mais t'es un vrai pirate en fait.
Mais non, voyons, un pirate ça a plus de prestance. Comme par exemple, au hasard, hein, moi.
De prestance? Vous insultez un marin armé là, triple buse. L'adversité ne m'aura pas cette fois.
Eh hey, mais ça me rappelle la légende du pirate la buse. Vous la connaissez?
Mais c'est pas un oiseau ça?
Alors, oui mais non, c'était aussi un pirate français qui écumait l'océan Indien, notamment.
C'est moi qui raconte. Même si vous avez déjà raconté la moitié de l'histoire. Mais tu n'as pas parlé de son trésor.
Un vrai, cette fois-ci, j'espère.
Un trésor mystique et source d'une légende fabuleuse. On raconte que la buse l'aurait enfoui quelque part sur l'île de la Réunion. Mais moi, je suis sûre que le trésor est ici. Et je vais le trouver.
Hé, hey, mon capitaine, ne partez pas aussi vite sans moi.
Mais il va bien, cet énergumène. Espèce de sardine mal conservée. C'est pas le cidre le plus pétillant de la cave, celui-là. Tu vas bien de fuir. Tu n'avais aucune chance face à moi.
Capitaine Moineau, calmez-vous. Il n'en vaut pas la peine, voyons. Allez, il commence à faire nuit. Venez plutôt, allons nous reposer dans cette taverne. Le voyage a été épuisant.
Morbleu, oui, j'en ai bien besoin.
La mer à boire. On y va, ça a l'air sympa. C'est atypique comme endroit, tu trouves pas, Solène? Il y a une table de libre au fond.
Parfait, j'ai besoin de ma chope de cidre quotidienne. Je meurs de soif. Trinquons à nous, de fiers loups de mer.
Délicieux, en effet. Par contre, regardez discrètement derrière nous, je crois qu'on nous observe.
Approchez, jeunes gens. Ce soir, c'est moi qui vais éclairer vos lanternes au sujet des créatures des fonds marins. Et croyez-moi, il y en aura bien besoin vu l'absence totale de lumière dans cet endroit.
J'ai tellement hâte, c'est fascinant l'inconnu.
Mais parle pour toi, moi ça me pétrifie.
C'est exactement le cumul de vos deux émotions qui fait que ce sujet intrigue autant de monde. En plus, il y a bien longtemps, toutes les régions du monde étaient influencées par leur propre folklore et n'avaient pas accès aux connaissances que nous avons aujourd'hui. Donc, les témoignages qui parlaient de monstres des abysses étaient sûrement exagérés par les croyants ou la peur des marins.
Du style que la terre est plate avec des monstres aux extrémités.
Vous avez sûrement entendu parler de la Carta Marina, une carte géographique du XVIe représentant les mers et les pays encerclant la mer Baltique. Mais ce qui la rend intéressante, c'est qu'elle montre des mers remplies de monstres. Serpents des mers, kraken, hybrides, écrevisses géantes. Une théorie dit que cette carte servait sûrement à effrayer les pêcheurs et les potentiels ennemis qui viendraient d'autres pays.
Bah c'est super efficace, moi dans le doute ça m'aurait dissuadé.
Ils avaient encore plus d'imagination que Jules Verne dans son roman 20 milieux sous les mers, le fond des océans représentant le cœur de l'inconnu.
D'ailleurs, Jules Verne s'est appuyé sur les connaissances scientifiques d'océanographes de son époque pour décrire le milieu marin.
Mais on en est où niveau découverte ?
Eh bien justement, on avait découvert seulement 5% des fonds marins avant qu'une équipe de scientifiques ait mené une enquête en 2017. Aujourd'hui, on a réussi à cartographier 25%, soit 90 millions de kilomètres carrés connus. Et la fosse des Mariannes avec plus de 10 900 mètres de fond, qui reste la fosse océanique la plus profonde connue à ce jour.
Ils savent donc ce qui recouvre le fond de l'océan ?
D'ailleurs, j'ai une anecdote, je sais qu'il neige dans l'océan.
Eh bien justement, les fonds marins sont recouverts de neige. Cette neige est en fait un agglomérat de petits débris de cadavres d'os et de squelettes ou de déchets organiques. Cette épaisseur augmente de 2 cm tous les 2000 ans.
Et moi je sais qu'en dessous de 1000 mètres, il n'y a plus de lumière.
Oui, et ni nourriture, ni chaleur, mais il y a un maximum de biodiversité et une pression extrêmement forte. Pour survivre, les poissons ont une chair gélatineuse et pas de squelette, ou alors des os constitués de très peu de calcium. Vous voyez tous la photo du blobfish. C'est en fait ce à quoi il ressemble après sa remontée, car il subit une forte dépression qui lui donne cet aspect dégoulinant qui en fait le poisson le plus moche du monde. Alors qu'en fait, dans son milieu naturel, il a une apparence de poisson tout à fait normale.
Ah, je savais bien qu'on allait enfin parler de monstres.
Mais ne vous dévalorisez jamais, capitaine, voyons.
Oui, le blobfish est une créature des abysses, même si c'est moins vendeur qu'un serpent des mers ou un kraken.
Vu qu'on n'a pas encore tout exploré, rien n'empêche qu'il y ait des créatures étranges dans les abysses. Genre, des sirènes ?
C'est Christophe Colomb lui-même qui en aurait observé.
Selon un angle et une lumière particulière, au loin, on peut prendre un lamantin pour une sirène. De plus, on sait que passer beaucoup de temps en mer peut provoquer des hallucinations. Et scientifiquement, un hybride homme-poisson est impossible. Les deux physiologies sont beaucoup trop différentes.
Bon, ok, les sirènes, c'était un peu gros. Mais il y a des exemples de créatures mythologiques qui sont très proches de certains êtres vivants.
C'est vrai que pour le calamar géant et le calamar colossal, le premier témoignage est celui d'un Français qui raconte l'attaque de son équipage par la bête et ramène un fragment de l'animal à un biologiste de l'époque qui sera incapable de l'identifier. On a dû attendre les années 2000 pour prouver son existence. Mais bon, il est bien moins imposant que le kraken.
J'ai vu qu'à Taïwan, ils ont un serpent des mers qui pourrait prédire les séismes.
C'est en fait un régalèque. Le spécimen le plus long ferait 11 mètres, mais on ne connaît pas encore sa taille maximale. Il a été observé entre la surface et 1000 mètres de profondeur.
Moi, je connais le requin lézard. Il vit jusqu'à 1570 mètres de profondeur et peut faire jusqu'à 2 mètres de long.
Vu les bruits hyper étranges qu'on entend dans l'océan, c'est dur de ne pas penser qu'il se cache bien pire.
Tu sais que la plupart des bruits d'origine inconnue dans les abysses sont d'abord pris pour un monstre, puis on se rend compte quasiment à chaque fois que ce sont des icebergs. Mais il y a quand même un son d'origine inconnue appelé upsweep. Entendu la première fois en 91, on sait qu'il est émis dans les abysses entre l'Amérique du Sud et la Nouvelle-Zélande.
Si les légendes ne viennent pas de nulle part, je me permets de remettre le sujet sur la table. Le mégalodon, on est sûr qu'il est éteint ?
Un requin de plus de 15 mètres de longueur ? J'espère bien qu'il est éteint.
Les scientifiques sont sûrs qu'il est bien éteint. Ceux qui pensent l'avoir vu ont sûrement observé des requins blancs plus grands que la moyenne. Mais il y aurait un super prédateur en Australie qui aurait dévoré un requin blanc de plus de 3 mètres. Le requin se serait fait emporter à 600 mètres de profondeur par on ne sait quoi.
Brr, moi je ne sais pas si j'ai envie de retourner sur notre bateau maintenant.
N'aie crainte, je te protégerai des villes créatures marines qui peuplent les océans. Nous n'avons qu'à écouter le journal télévisé. Mais vu que nous sommes dans une taverne décrépite, sans eau, ni électricité, j'imagine que nous allons nous contenter de ce 10 heures d'actualité, juste là.
Oyez, oyez, mes chers taverniers, vous m'avez l'air perdu. Vous ne savez pas quoi faire de votre futur ? Laissez-moi vous lire l'avenir et vous dire ce qu'il vous attend. Du 19 mars au 3 avril, le musée d'Aquitaine ouvre ses portes pour des rendez-vous inédits. Retrouvez des enseignants et enseignantes chercheurs, chercheuses de l'université Bordeaux-Montaigne pour des conférences sur des thématiques variées et captivantes. La programmation est disponible sur le site de l'UBM. Les places sont gratuites, limitées et sans réservation. Ne tardez donc pas. Le 19 mars, c'est également la date de la finale régionale de ma thèse en 180 secondes. 16 candidats et candidates des universités de Bordeaux, Bordeaux-Montaigne, de La Rochelle et de Pau et de Pays de l'Adour vont présenter leur thèse à la Maison des Arts de l'UBM. Venez nombreux et nombreuses pour soutenir votre favori. Plus d'informations sont à trouver sur les sites des universités citées auparavant. Mars rime avec inclusivité pour les campus de Bordeaux. Pour cette première édition, des événements sont proposés pour valoriser les travaux de recherche et les missions de la communauté universitaire. 4 grands thèmes sont abordés. Les handicaps invisibles, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, l'identité de genre et l'égalité homme-femme. Le 8 mars, journée des droits de la femme, se tiendront conférences et ateliers sur des sujets liés à cette journée. L'inscription y est obligatoire. Des informations complémentaires sont trouvables sur le site de l'Université de Bordeaux.
Fort intéressant tout cela. Ah, décidément, la vie de marin est bien remplie. Je suis fort satisfaite d'écumer les mers à tes côtés, Charlotte.
Oui, capitaine Moineau, nos aventures me font chaud au cœur. Mais peut-être serait-il d'ailleurs le temps d'étoffer notre équipage ? Je ne sais pas, peut-être un cuisinier ? Non pas que je remette en question vos talents de gastronome, mais j'avoue que je sature un peu de votre bouillabaisse revisitée aux algues de la rade de Brest.
Oui, cela pourrait être une bonne idée. Voire même un compagnon d'un tout autre genre. Regarde ce perroquet là-bas, n'aurait-il pas fière allure sur mon épaule ?
Oh oui, pourquoi pas, j'adore les volatiles. Tiens d'ailleurs, il s'agit de la thématique de notre émission de la semaine prochaine, les oiseaux.
Fort intéressant. D'ici là, nous aurons conquis les têtes mères. C'est moi qui te le dis.
J'en suis sûre, mon capitaine Moineau. Sur ce, merci de nous avoir écoutés. C'était les dealers de science pour Science de l'Antenne.
Bonne soirée à tous. Comme on dit en Bretagne, canavo.